Vous branchez sur la question de monsieur.
Oui, mais c'est pour la
vie. Écoutez, je le dirais, c'est un sujet très vaste quand même, cette problématique du donné. Quel reproche de santé?
Si on raisonne comme ça, alors on est tous juifs, mais je dis, et il y a des considérants très péjoratifs.
Écoutez, je modifierai un peu comme ça. Tout nous est donné, mais tout doit être mérité. Les deux choses sont vraies. Mais alors, la question qui se pose, c'est comment mériter le don de l'être? Est-ce que nos petites vertus, ça peut être une monnaie suffisante pour racheter, le mot étant à sa place, le don de l'être? C'est ça le véritable problème. Un jour, je vais vous raconter une histoire hassidique et puis on prendra la hafsaka. C'est que nous ne savons pas quelle est la valeur de nos vertus. Et d'ailleurs, la Gemara le dit, que nous ne connaissons pas le salaire des mitzvot. Okay? Et nous ne savons pas. Alors voilà comment les hassidiques vous racontent ça, c'est très joli. Un jour, le roi a fait savoir à un de ses paysans qu'il voulait être reçu le vendredi, le Shabbat chez lui. Puisque le roi était juif, le paysan aussi. Le roi, c'est lui. Alors le paysan était dans tous ses états. Comment je vais recevoir le roi dans ma petite masure le vendredi soir? Bon, finalement, il prend son courage à deux mains, une petite nappe blanche, deux petits chandeliers, deux petites ralotes, et puis sa femme avait peut-être un petit bijou, il attend le roi. Et il voit au loin arriver un cortège, avec des chambellans et des huissiers, portant des candélabres, il faudrait Edmond Fleg pour décrire ça, cosmique. Et des halotes gigantesques, et imaginez le cortège des anges du roi. Alors il a tellement peur qu'il ramasse sa petite nappe avec ses petites bougies et sa petite femme, il met tout ça dans le placard. Et puis le roi arrive et se met en colère. Il dit quoi, tu m'as rien préparé? Il dit, mais j'ai vu tout ce que tu m'apportes, qu'est-ce que je vais te donner? Il dit, tout ça c'est à moi, mais ce que je voulais c'était tes bougies à toi, tes halotes à toi. Ça veut dire, on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce que c'est clair? Il y a une désespérance, une déception à l'origine de ce scrupule, disons, de la conscience chrétienne, que valent nos vertus? Et bon, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que vous parlez du fait de recevoir qui peut être ressenti comme un mal ou du moins avec malaise?
Ça, c'est la vérité.
Mais c'est dans le cas où si la vie semble être un cadeau, où l'on est comblé, mais dans le cas où l'on souffre,
je vous comprends très bien, c'est pas ça que je parle du cas général, qu'on appelle peut-être, je crois, dans la littérature le malheur de vivre. Que le seul fait de vivre, d'exister, est ressenti comme un malaise, comme un mal. Et alors c'est ça qui fait que l'on souffre.
Oui, mais la revendication aussi peut naître aussi de cette...
C'est vrai aussi, mais ce sont des cas particuliers. Je parlais c'est vrai aussi. C'est Rabbi Yochanan qui souffre, et alors ses collègues viennent le visiter en le félicitant, tu souffres, tu vas être récompensé. Et alors il répond, Habibin alecha isurin, est-ce que ces souffrances te sont chères? Et il répond, la question semble être chrétienne, okay? On est en plein milieu ascétique. Et il répond, Lohen velosravan, ni elle ni leur salaire. Et effectivement, alors là, c'est le cas particulier, et nous avons des enseignements à ce sujet. Je veux dire, en règle générale, cet optimisme juif, dont a parlé à sa manière d'ailleurs Mizrahi hier soir, pour ceux qui étaient là, c'est de considérer la vie comme un cadeau splendide. Ça veut dire que ce qui nous est donné, lorsque l'être nous a été donné, c'est quelque chose de la splendeur du monde, il l'appelait. Seulement voilà, la Torah apparaît, et alors c'est à toi si tu mérites. Et bien, personne ne sait comment il mérite, mais il faut évacuer cette gêne du recevoir sans l'avoir racheté, et qui est caractéristique de la Torah.
Parce que dans la prière du matin, il y a toujours cette partie où on dit que sommes-nous, que faisons la gloire à Dieu, etc. On se considère comme étant un fétu de paille.
Comme étant
quelque chose de...
Absolument. Et c'est vrai. Et voilà que nous ne sommes rien. Cette première vertu doit être absolue. Il faut savoir que nous ne sommes rien. Et c'est à ce rien-là, pour ce rien-là, que Dieu a inventé les univers et nous a dit, c'est toi, essaye de mériter le tout. Voilà. C'est cette dialectique qu'il faut... Encore une histoire chassidique, et je m'arrête là. Il y a dans le Talmud, Zacha, s'il mérite, celui qui a mérité, qui a obtenu le mérite, on lui dit, Yetush Kadmach, une fourmi t'a précédé dans la création, on a créé les insectes avant toi, que qui tu es. Et s'il ne mérite pas, on dit, non, Slira, Zacha, Omrim, s'il mérite, on dit, toute la création repose sur toi, tu as été créé comme couronnement de la création, et s'il n'a pas mérité, on dit, Yetush Kadmach, tu n'es donc rien, une fourmi t'a précédé. Alors la lecture mitnaged de ce midrash consiste à dire ceci, celui qui a mérité, drapé dans son mérite, eh bien, il est le roi de la création, les autres c'est perdu, et il est moins qu'une fourmi. La lecture racine consiste à dire, celui qui a mérité, on lui dit fais attention à ta responsabilité, toute la création dépend sur toi, aie peur. Et celui qui a démérité et qui est tombé dans la désespérance, on lui dit qu'est-ce que tu as perdu, qu'est-ce que tu as gâché, moins qu'une fourmi. Recommence. Mais vous voyez, les deux choses sont vraies d'ailleurs. Bien. Ken, encore une question et Védaï.
Le temps des patriarches, vous avez dit, la Bible m'a dit que c'était le temps des midot. Et donc, le mérite à ce moment-là.
Le mérite d'être. C'est une notion qui ne fait pas partie de la pensée moderne. La pensée moderne, probablement depuis Rome, est une pensée de comptabilité des mérites d'actes. Okay. Je me réfère à une analyse de Brunswick, je crois. Le logos grec, qui était à la fois parole et raison, dans le ratio latin, est devenu que réor, compter la raison. La comptabilité des mérites et des démérites au niveau des actes. On a perdu ce que serait la balance du mérite au niveau de l'être. Il y a un mérite d'être qui est d'un autre ordre que le mérite de l'acte. Les Abbot ont vécu la Torah au niveau du mérite d'être. Ils n'avaient pas à se mesurer à des obligations et sanctions. C'était leur manière d'être. Et cette manière d'être nous est donnée en charte d'identité à l'échelle de l'individu dans la société comme loi. Nous devons devenir nous-mêmes. Je ne sais pas comment dire ça. Et à partir du moment où l'individu a atteint la manière d'être Israël au-delà, à travers, mais au-delà, la manière de faire d'Israël, alors il est au niveau des Avot. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est-à-dire, les Avot n'avaient pas à avoir ce sentiment d'une obligation à accomplir pour être ce qu'ils sont. Ils s'étaient. L'individu, à l'échelle... à l'intérieur de la société de leurs descendants, reçoit comme obligation le fait de faire équivaloir son individu à l'être collectif. Alors il le ressent dans la catégorie de la mitzvah.
Sans que ce soit une grâce.
Et c'est une grâce. Et c'est une grâce. Je terminerai par une... C'est une grâce que nous ressentons comme ça. Et alors je suis donc obligé de parler aussi du cas de ceux qui acquièrent cette grâce. Les juifs ressentent ça comme ça, comme un privilège et comme une grâce. On leur assène avec l'accusation du peuple élu et je d'être né comme cela. Mais n'importe qui ne naît pas n'importe où. Nous sommes à travers la naissance, fils de fils de fils de fils. Il faut aussi éclairer cela. C'est pas n'importe qui vient n'importe où dans la société humaine. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance? C'est le mystère de la Kabbalah. Okay. On a oublié, mais il y a un avant. Et donc, histoire dans l'histoire, un des maîtres a enseigné, pourquoi il y a si peu de juifs dans le monde? Il y a une Gemara qui dit que Dieu propose à chaque âme une place dans l'histoire de l'universel. Et il y en a très peu qui ont le courage de choisir Israël. Il y en a très peu. Il y a aussi d'autres raisons, les massacres, tout ce que vous voulez. Mais... Et alors, et après on oublie que c'est nous qui sommes nous. Donc, je reviens à ce que je disais. Rappelez-moi la question, ça m'échappe. Hein?
peut-être.
Non, non, on parlait de... Vous aviez une question plus précise? Ah oui, et oui, voilà ce que je voulais enseigner. Alors nous lisons tous les matins, c'est une bracha qui fait problème, Baruch Shelo Asani Goy. On remercie Dieu qui ne nous a pas fait Goy, c'est-à-dire non-juif. Ça gêne tout le monde, okay? Mais si c'était gênant, les rabbins qui ont institué ça auraient pu formuler ça autrement, ne serait-ce que de manière positive. Baruch Shelo Asani Yehudi, béni soit celui qui m'a fait juif. Non, on dit béni soit celui qui ne m'a pas fait Goy. C'est difficile. Il y a une lecture chassidique de cela que je voudrais vous rappeler. Baruch Shelo Asani Goy, c'est-à-dire on remercie Dieu que ce n'est pas le Goy qui m'a fait juif. Que ce n'est pas le Goy, c'est Hassani. Le Goy qui m'a fait juif. On est sorti des réflexions sur la question juive de Sartre. Okay? Qu'on est juif que parce que le Goy nous fait juif. Donc ce n'est pas ça. En Israël, enfin dans l'Assemblée d'Israël, on perçoit comme un privilège d'être condamné à être tzaddik, pour récapituler le raisonnement. Nous sommes obligés d'être ce que la Torah veut, mais c'est un privilège. Je dirais autrement, alors qu'à l'échelle individuelle, l'égoïme qui devient Israël, c'est un choix individuel, c'est pourquoi, je ne sais pas si vous connaissez la halakha, c'est une halakha, un converti, on doit l'appeler rabbi. Je ne sais pas si vous savez ça. Le Maharal qui explique ça. Je vais vous ajouter un commentaire. De deux choses, une. Ou bien c'est un grand sage, ou bien il est fou. Non, fermez la parenthèse.
Il est dans le sens de
Saint Louis. Oui, Saint Louis, priez pour nous. Mais je veux dire qu'on lui pose la question. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as vu, considéré pour venir t'adjoindre à un peuple pareil? Alors, ou bien il est sage, il a compris le sens de l'histoire du monde, alors il vient rejoindre la maison, ou bien il est complètement fou. Mais vous avez dit, c'est peut-être la même chose. Peut-être.
Et les rabbins acceptent de convertir quand
ils sont complètement fous? Ça dépend du genre de folie. Et là, il y a un problème grave. Il y a une... Comment dire, une analyse à faire de savoir quelle est la motivation de quitter son identité ancienne. Alors après seulement, on accepte d'envisager la motivation de rejoindre l'identité Israël. Vous comprenez le problème. Donc, mais les tribunaux rabbiniques sont débordés, semble-t-il, en France. Et alors, il y a... c'est inexprimable, c'est inexplicable, cette sensation du privilège d'être condamné à être sadique. Et ça a l'air un peu existentialiste comme vocabulaire d'ailleurs, hein, quand sardines sont condamnées à être libres. Ça ressemble un peu. Mais voilà ce que je vais ajouter. C'est que Israël a intérêt à être vertueux. À être vertueux. Vous voyez, c'est une collision de concepts. Intérêt à être vertueux. Alors on est assuré. Okay. On ne peut pas faire autrement. Est-ce que c'est clair ce que
vous dites? Oui, mais la vertu est guérissée encore.
Oui, alors ça dépend, il faut se dégager du vocabulaire kantien. Si vous pensez dans le vocabulaire kantien, alors il faut dépasser. Par exemple, je vais imaginer un exemple. Kant nous dirait, tout ça au conditionnel, que si une mère aime son enfant parce que c'est son enfant, c'est pas désintéressé. Eh bien, la Torah préférera les mères qui aiment leurs enfants. Bon, on est sûr. Voilà ce que je voulais dire. Bien, alors on se revoit dans 5 minutes avec le livre de Bréchit, on va s'occuper de l'autre et d'avoir. Sujet est la querelle entre les bergers de l'autre et les bergers d'Abraham. Je devrais dire plus exactement les bergers d'Abraham qui ont querellé les bergers de l'autre, la séparation, ce chapitre 13, et d'autre part tout le problème de ce qui arrive à Lot après Sodome et Gomorre. Et que vous avez donc... Merci, laisse. Pardon. Je vais... Non, non, ça doit être au chapitre 19. Attendez une minute. Le chapitre 18 et 19. Donc, chapitre 13, chapitre 18 et 19. Et aujourd'hui, nous allons voir les premiers principes de cette séparation. Alors, on prend le texte. Au chapitre 12, verset 4. Bien, j'avais vu quelqu'un voulait poser une question. Je ne sais plus de quel côté, oui. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Je vais vous donner un pan schématique de vocabulaire qui nous aidera peut-être à poser ce problème. Et il y a dans la Torah trois catégories de commandements. La catégorie des commandements qui règle les rapports entre chaque homme et les autres hommes. C'est ce que dans la culture contemporaine on appelle la morale. Donc il y a des lois de la Torah concernant le problème des rapports entre l'homme et autrui. Que autrui soit un autre individu, il y a aussi le problème de la relation à la famille, et que autrui soit la société, ou le membre d'une autre société. En général, dans le vocabulaire de la culture contemporaine, on appelle ça le problème moral. C'est un tiers, disons, en principe, des commandements de la Torah. Ben Adam, la Havero, en hébreu. Il y a le secteur des commandements qui concerne le problème des rapports entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la culture générale la religion. Et un troisième secteur, qu'on appelle Ben Adam le Atzmo, le problème des rapports entre l'homme et lui-même. Et ici, c'est un problème assez vaste. Pour la Torah, c'est la messianité. Ce qu'on appelle dans la culture générale le problème spirituel. Simplement fait une étymologie rapide en hébreu, Ben Adam le Atzmo, c'est pas seulement un pronom nominal entre moi et moi-même, c'est Ben Adam le Etzem Adam Asher Bo, entre l'homme et l'essence de l'homme en lui. Alors il y a un ensemble de commandements à ces trois niveaux, et donc le problème moral, c'est les rapports entre l'homme. Je vais employer un vocabulaire plus biblique, entre chaque créature et une autre créature, et qui pose un problème à l'histoire humaine qui, semble-t-il, apparaît comme insoluble. Parce que j'essaye de schématiser, on dirait suffisamment clair. Et nous suivons cela dans le récit historique que nous donne la Torah dès l'origine sur l'histoire des sociétés humaines, et où elle énumère les différentes tentatives et leurs échecs, puis la solution que propose la Torah à ce problème des rapports entre l'homme et autrui. Et le problème se pose ainsi. Chaque créature est candidat à être un sujet. Or, tout geste de relation à autrui transforme un des sujets en objet. Est-ce que c'est clair jusque-là? Top. Alors, l'humanité n'a trouvé que trois, disons quatre, y compris la Torah, que quatre solutions à ce problème. Puisque tout geste de vie, d'histoire, transforme un des sujets en objet. Je vous donne l'exemple que je donne souvent pédagogiquement. Nous sommes en relation d'autrui à autrui pendant cette étude. Alors, je vous parle. Pendant que je vous parle, je suis sujet et vous êtes objet. Il faut donc que je parle de manière telle que la situation naturelle d'objet qu'entraîne l'événement soit restituée en dignité de sujet. Inversement, vous m'écoutez. Alors, vous êtes sujet et je suis objet. Vous devez donc écouter de manière telle que ma situation naturelle, situation dans un sens existentiel d'objet, quand vous m'écoutez, se transforme dans la dignité de sujet. Donc, il faut résoudre cette impossibilité. Pour comment faire dans la réalité, dans le comportement, pour que les deux soient sujets et qu'il n'y ait pas un transformé en objet? Parce que l'objectivisation du sujet en objet, c'est l'assassinat de Abel par Caïn. Caïn a objectivisé Abel, à la limite, il l'a cadavérisé. Bon. Et alors, il y a une première doctrine dans l'histoire des civilisations, c'est, puisque l'histoire entraîne inévitablement qu'un soit sujet et l'autre soit objet, je serai le sujet, tu seras l'objet, c'est le totalitarisme. Je suis sujet, tu seras objet. C'est un peu parallèle à la dialectique hegelienne, mais très très parallèle. Il y a une réaction contre cette barbarie. On la pressent théoriquement dans le christianisme. Si il est inévitable qu'il y ait un sujet et un objet, eh bien je préfère être l'objet et que tu sois le sujet. Mais quand je dis théoriquement, c'est-à-dire aucune société chrétienne, sauf dans certains couvents l'héroïsme de la charité, n'a vécu, suivant la formule du serment sur la montagne. C'est théorique. Mais c'est la réaction de la conscience chrétienne à la barbarie barbare. Il y a une troisième tentative de solution de ce problème dans ce que l'on appelle peut-être à tort les religions d'Extrême-Orient, mais que j'appellerais plutôt les spiritualités d'Extrême-Orient. Puisque tout geste d'histoire entraîne qu'il y a un sujet, un objet, arrêtons l'histoire. Comme ça, il n'y aura pas de mal. Et alors, la formule serait objet, objet. Tout le monde est objet. Il n'y a plus de sujet. C'est assez l'atmosphère de la spiritualité extrême-orientale que les sages de l'extrême-orient appellent, je le dis en français, l'équanimité. Pour qu'il y ait égalité d'humeur, pas de dol, pas de douleur, il faut arrêter les désirs et d'agir. Okay. Je cite souvent un proverbe que j'avais entendu il y a très longtemps d'un shintoïste. Il vaut mieux être assis que debout, couché qu'assis, et mort que couché. On arrête l'histoire. Okay. Et je crois que le bouddhisme est la forme la plus élaborée de cette attitude. Dans les trois cas, il y a échec du problème moral. Dans le premier cas, l'échec est dans la barbarie, c'est le totalitarisme. Dans le deuxième cas, l'échec est dans l'héroïsme du sacrifice, mais le problème moral n'a pas de solution. Il y a une victime. Okay. C'est pourquoi je dis, c'est théoriquement le programme chrétien, semble-t-il. Mais aucune société chrétienne n'a vécu ainsi. Et puis dans le troisième cas, il y a l'arrêt de l'histoire, mais ça reste fictif, parce que les sociétés bouddhistes existent. Et dans la société bouddhiste qui fonctionne d'après le premier modèle, il y a des couvents bouddhistes qui fonctionnent après le troisième. Le problème de l'histoire humaine n'est pas résolu. La solution que propose la Torah de ce problème moral, c'est de restituer la dignité du sujet dans la réciprocité. C'est-à-dire chacun reconnaît l'autre comme supérieur, alors il n'y a pas d'inférieur. Si c'est réciproque, le problème est résolu. Si ce n'est pas réciproque, il y a échec. Et hypocrisie et échec. Est-ce que c'est bien clair ? C'est en cela qu'il me semble que l'enseignement de la Torah est en porte-à-faux par rapport à la tendance actuelle de la formulation, surtout en français, de la pensée juive contemporaine, qui est plutôt de l'ordre du discours chrétien, c'est-à-dire la reconnaissance de la dignité de l'autre sans réciprocité. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je ne veux pas parler. Attendez, je n'ai pas terminé. Ah oui, c'est-à-dire chacun... Non, il n'y a pas d'égalité entre des égaux. La véritable effectuation de l'égalité, c'est la reconnaissance de la supériorité de l'autre. Quand c'est réciproque, il y a égalité. C'est-à-dire que je dis à l'autre « mon Seigneur » et il me dit à moi « mon Seigneur » en même temps. Alors il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas d'esclave. C'est cette histoire que l'on lit dans les rapports entre Jacob et Ésaü. Jacob s'adresse à Ésaü en disant « mon Seigneur » et Ésaü se prend au sérieux. « Ah, je suis ton Seigneur, tu seras mon esclave. » Okay. Et alors si c'est réciproque, le problème est résolu. Donc théoriquement, la solution de la Torah est très facile. Elle est très difficile à réaliser. Mais elle est différente que l'équation extrême-orientale ou chrétienne ou totalitariste. L'islam est plutôt du côté de la première équation. Le christianisme plutôt du côté de la deuxième. Le bouddhisme plutôt du côté de la troisième. Le judaïsme, c'est autre chose. Et alors, j'ai retrouvé cela dans la tentative de la politesse de la chevalerie. Et le salut où on se dit « monsieur » vient de là. « Monsieur »,« mon sieur », ça veut dire « monseigneur ». Mais s'il y a réciprocité, c'est très bien. S'il n'y a pas réciprocité, si le monsieur se prend au sérieux, il y a catastrophe. Voilà, c'est ce que la Torah a enseigné. Le problème moral n'est résolu que s'il y a réciprocité. Et c'est pourquoi je suis très inquiet de lire tous ces nouveaux philosophes qui feignent de parler de la gratuité. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire de la relation à autrui? Un peu l'allusion qu'il y a eu un peu à la conférence du rabbin Bernheim, lorsqu'il a cité M. Levinas, l'éthique pour l'éthique, surtout dégager l'éthique de la politique. Parce que la politique, ça consiste à réclamer la réciprocité de l'autre. Hein? Et il y a là, je crois, une théologie de la charité et du sacrifice dont l'Église ne disposait plus et que les philosophes juifs sont en train de lui fabriquer. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'Église aime bien ces philosophies-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay.
Elles sont cependant valables.
Comment ?
Elles sont cependant valables.
Écoutez, il y a là héroïsme spirituel, la plupart du temps théorique intellectuel, c'est littéraire, mais le problème moral n'est pas résolu. C'est-à-dire, on ne sait pas résoudre le problème moral, alors on dit qu'on se sacrifie. On dit qu'on se sacrifie. Et à la fin du mois, on va toucher son chèque à la trésorerie. Ça me rappelle, j'ai court-circuité le raisonnement, mais vous avez compris, je suppose. Hein, tout est gratuit, sauf la fin du mois. Mais ça me rappelle quelque chose qui m'avait frappé dans mes études de philosophie. J'avais un professeur existentialiste, très brillant d'ailleurs, qui nous démontrait que le monde était absurde, et il a démontré de manière telle qu'il y avait des tendances au suicide chez les élèves. Mais jusqu'au moment où je me suis aperçu, je suis allé lui dire d'ailleurs, bon, il n'a pas su quoi répondre, tout est absurde, mais on dit ça à l'abri de quelque chose qui n'est pas absurde. La trésorerie où à la fin du mois, il allait toucher son chèque. Ça démolit tout. Comme on dit en hébreu, « bin pola yesod, di pola binyan ». Si on retire le fondement, le château s'écroule. Okay. Alors c'est très beau ce discours sur l'absurdité du monde, mais quand on est à l'abri de quelque chose, est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Tout est absurde sauf le fait que je le dise, et allez, embraye. Okay. Okay. Pardon.
On ne renoncerait qu'à ce qui nous arrange.
Pardon ? Exactement. 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 Je ne peux pas faire des cas particuliers dans l'histoire de la philosophie, mais je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup frappé. On revient un peu au vocabulaire de Kant. Je crois que c'est Alexandre Kojève. Il me semble que c'est Alexandre Kojève. C'est un grand historien de la philosophie, mais je ne peux pas vous garantir. Qui parlait de Kant en disant « Kant a les mains pures ». Ah, c'est Peggy. Oui, Kojève parlait de Spinoza, c'est là. Kant a les mains pures, mais c'est parce qu'il n'a pas de mains. Est-ce que c'est clair? Et alors, nous, juifs traditionnalistes, c'est impur, ce discours, okay, qui implique une espèce de pétition de principe, je ne sais pas comment dire, immoral. Okay. On se met à l'abri de quelque chose et on dit qu'il n'y a pas d'abri. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Par exemple, ce livre, la Bible, c'est le livre, mais vous savez, il n'est pas révélé. Okay.